Je m'appelle Manon Andréau, je suis autrice et metteuse en scène à Montpellier, dans la compagnie Les Faiseurs de Rien.
Manon Andréau co-dirige la compagnie Les Faiseurs de Rien avec le metteur en scène Hugo Naudin. Elle met en scène et envoie ses pièces lors de lectures publiques. Préoccupée par l'état du monde, révoltée par l'injustice, son écriture est toujours engagée. Depuis le recueil de nouvelles dans Mes monstres, en passant par la prose romanesque dans Dortoir, jusqu'à l'écriture dramatique que l'on retrouve dans sa trilogie théâtrale Combattante. Manon Andréau était présente au lycée Marcel Gimond. Elle y a rencontré des jeunes de l'option théâtre.
Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis une ancienne élève du lycée Marcel Gimond, que mon père est documentaliste au lycée Marcel Gimond et que Jérôme André, qui gère la classe, notamment la classe théâtre et qui est prof de français, a été mon professeur quand j'étais au lycée. De mon parcours en tant qu'autrice, de mes textes, etc., ils ont eu envie de me faire venir pour que je puisse parler un peu de mon parcours et raconter un peu aux élèves ce que je fais et partager ça avec eux, moi qui étais à leur place il n'y a pas si longtemps que ça.
Donc j'ai fait une prépa littéraire pendant 2 ans, donc Hippo Cagne-Cagne à Lyon, option théâtre. C'était surtout de la théorie et un petit peu de pratique, mais surtout de la théorie. Et ensuite, c'est là que j'ai pu commencer à me familiariser vraiment avec le théâtre contemporain, aller voir beaucoup de spectacles, avec les écritures contemporaines aussi. Et ensuite, j'ai bifurqué un petit peu, j'ai fini ma licence de lettres à l'université. Je suis partie 6 mois en Erasmus, j'ai bien profité de ma vie. Et ensuite, je suis revenue à Lyon et donc j'ai fini ma licence de théâtre, donc à l'université toujours. Et là, du coup, j'ai monté mon premier collectif de théâtre qui s'appelle le collectif Déter, avec qui j'ai monté donc mon premier spectacle. C'était une mise en scène de L'éveil du printemps de Frank Wedekind. Donc c'est un dramaturge allemand de la fin du 19e. On a été toute une équipe à mettre en scène ce spectacle. Donc il y avait autant des gens en costume qu'à la scénographie, qu'à la musique, qu'au jeu et à la mise en scène. Donc voilà, ça a été une expérience super formatrice et j'ai beaucoup appris. On a d'ailleurs joué ce spectacle donc à Lyon. On l'a joué ici aussi, à la Bobine. Et on l'a joué au lycée agricole. Et ensuite, j'ai mis en scène un autre spectacle avec ma compagnie. Ensuite, j'ai trouvé un master à Montpellier qui s'appelle Master Création en spectacle vivant et qui est du coup un master 100% pratique. Donc, on a travaillé avec des artistes, des metteurs en scène, des chorégraphes, des auteurs. Donc on a fait plein de choses pendant 2 ans. On avait aussi de la pratique. Enfin, là, pour le coup, on a monté des projets. Et en parallèle, je me suis mise à écrire. Pendant tout ce temps-là, j'ai écrit. J'ai écrit plusieurs pièces et là, ça fait 1 an que j'ai fini mon master et que du coup, j'ai créé une compagnie qui s'appelle Les Faiseurs de Rien. Si jamais vous voulez regarder, ça se trouve sur tous les réseaux. On est 2 co-metteurs en scène et on a à la fois des projets en duo et des projets en solo.
Alors, c'est quoi ton métier exactement pour qu'on comprenne bien les gens qui ne sont pas trop dans le milieu du spectacle? Je pense que ça ne leur parle pas du tout. Est-ce que tu peux le présenter?
Alors, mon métier, c'est la création de spectacles au sens large. Donc de spectacles vivants de type plutôt théâtre. J'écris des pièces de théâtre que je mets ensuite en scène pour en faire des spectacles. Je ne sais pas si c'est clair.
Oui, c'est clair. Après, tu me disais que tu avais une façon un peu spéciale de travailler. Je ne sais pas si ça se fait beaucoup. Ouais. Mais plutôt, vous partez de ce que donnent les comédiens en impro pour écrire ensuite un spectacle.
Ça, c'est une partie de mon travail. Mais oui, en effet, c'est donc ce qu'on appelle l'écriture de plateau. Mm-hmm. Et en fait, c'est assez commun. C'est une façon d'écrire assez commune, depuis quelques années sur la scène théâtrale contemporaine. Même un petit peu à la mode. Beaucoup de gens qui font ça. Et du coup, voilà, c'est ça. Moi, ce qu'on fait avec mon co-metteur en scène, on a une idée, un début d'histoire, et ensuite, on arrive, on propose ça aux comédiens, on leur donne des protocoles, enfin des exercices pour improviser. À partir de là, on récolte plein de matières, et ensuite, on part en écriture que tous les deux. Donc voilà, on s'isole pour écrire, et de là, on écrit un spectacle... avec des personnages, des répliques, tout ce qu'il y a de plus classique, mais avec une phase comme ça d'improvisation des comédiens qui vient nous nourrir beaucoup. Et moi, après, je fais aussi de l'écriture solitaire, où j'écris ma pièce dans mon coin avec mes personnages. Et voilà.
Donc là, c'était plutôt le cas, ce que tu lis aujourd'hui. C'est un extrait de la pièce que tu es en train d'écrire. Est-ce que tu peux en parler un petit peu, la présenter?
Donc c'est une trilogie théâtrale qui s'appelle Combattante. Donc ça fait... plusieurs années que je travaille dessus. J'ai écrit la première partie il y a 4 ans, la deuxième partie il y a 2 ans. Et là, je suis en train de travailler, enfin, en tout cas, dans ma tête, et je vais passer à l'écriture bientôt de la troisième partie. Et donc, cette trilogie, c'est une trilogie d'anticipation qui se passe dans un monde dystopique. Et dans ce monde, les hommes organisent des combats de femmes. Voilà, ça, c'est le point de départ. Et du coup, je brasse toute cette matière et je vois comment ça réagit, les relations entre les individus au sein de cette violence généralisée, qu'est-ce que ça raconte aussi de notre monde, en fait, et des rapports entre les genres. Enfin, voilà, tout un tas de thématiques que ça me permet d'aborder. Chaque partie se passe dans une entreprise différente. Donc la première partie, c'est Bee & Sons. Donc c'est une entreprise, on va dire, privée. C'est l'histoire de deux frères qui se réveillent le lendemain d'une grosse gueule de bois. Et ils se rendent compte que la copine d'un des deux frères a disparu. Donc ils partent à sa recherche. Et comme ça, il y a un aller-retour de flashback entre ce qui s'est passé pendant la nuit et eux, leur état au matin à leur recherche. Pendant la nuit, Maud dans sa loge avant le début du combat. Ça ressemble à une loge d'artiste. Des ampoules cerclent le grand miroir en verre. Mot. Le dernier. Matt a promis. C'est le dernier. Il y a l'enfant dans mon ventre et... Le même rituel, toujours le même rituel. Je prends mon peigne avec des dents en bois. Il crisse sur mes cheveux. Tout le long, il descend. Ça me détend de faire ça. Je le fais à chaque fois. C'est devenu un tic, on pourrait dire un toc même, mais il faut ce qu'il faut. C'est ma mère qui m'a appris ça. Mettre en place une série de rituels, toujours les mêmes, pour que ça devienne quotidien, routinier, banal, rassurant. Comme quand tu te lèves et que tu prépares ton café, que tu fumes ta première clope pour te donner du courage face à la journée qui arrive. Elle me disait, c'est ça la vie. Prendre des risques, c'est la vie. Moi, je me suis battue toute ma vie, 72 combats. J'ai cru y laisser ma peau seulement une petite dizaine de fois. Et puis voilà, tu es là, au chevet de ce triste lit d'hôpital et tu chiales de voir ta mère s'éteindre en même temps que le cancer se propage dans ses poumons. Pleure pas, mon enfant, elle me disait. Je n'ai pas pleuré. Je pleure toujours un peu quand je passe le peigne de bois dans mes cheveux. Je me dis que si je le fais systématiquement, si je le fais à chaque fois, il ne peut rien m'arriver. J'ai de la chance, moi. J'ai 26 ans, et c'est déjà mon dernier combat. Les lumières s'éteignent. Le visage de Mo n'est éclairé que par les néons. Allez, debout. Les derniers instants, c'est ceux que je préfère au final. Après, il n'y a plus rien. Après, il n'y a plus que le bruit de la foule et moi qui hurle sans même m'en rendre compte. Après, il n'y a plus de souvenirs, il n'y a plus d'esprit, il n'y a que des corps. Je sais qu'ils ont verrouillé la porte de la loge. C'est nouveau. Ils font ça depuis quelques mois. On n'est pas censé être au courant, mais Matt me l'a dit. Ils font ça parce qu'un jour, l'un des mecs d'une combattante est venu la voir. Juste avant le début, il lui a dit qu'il en avait marre, qu'il n'en pouvait plus de vivre dans la peur et... Elle est partie. Ils se sont enfuis tous les deux. Matt était furieux, il a gueulé que c'était une infamie, une trahison. Comment on peut abandonner comme ça les autres qui comptent sur vous? Après tout ce qu'il avait fait pour elle. La porte est verrouillée, alors j'aime ce moment parce que voilà, je ne peux plus partir. Je ne peux plus dire non. Je ne peux plus refuser, je ne suis plus maîtresse de rien à part de mon corps. Il y a bien une fois une fille qui a arrêté de se battre pendant le combat. Elle a arrêté de rendre les coups, puis elle a grimpé aux barrières. Elle s'est hissée jusqu'à l'arbitre, elle lui a dit « je jette l'éponge, ça suffit, je jette l'éponge ». Il l'a regardée en silence, il a fait non de la tête, puis il a secoué la barrière. Elle est tombée sur le sol. L'autre fille s'est précipitée sur elle. Dernier rail de coke, dernier rituel, dernier gris-gris. Le compte à rebours s'estompe. Plus qu'une minute. Allez, Mo, c'est le moment de rassembler tes forces, de laisser tomber tes esprits. En piste. Je suis bien. Au bon endroit. Allez, Mo. C'est pas le moment de flancher.
Une pièce en trois parties, est-ce que ça veut dire que chaque partie peut être jouée indépendamment ou est-ce qu'il faut attendre que la pièce soit totalement finie pour pouvoir l'adapter après ?
Alors, chaque pièce peut être indépendante. D'ailleurs, j'ai monté la première partie pendant mon master. J'ai monté la deuxième. Là, je suis en train de mettre en scène la deuxième partie qui va être jouée au printemps, normalement. Donc, plutôt dans la région de Montpellier. Mais...
Donc, elles ont déjà été jouées.
Donc, la deuxième va être jouée, ouais.
D'accord.
Elle est en cours de mise en scène. Et en fait, donc voilà, elles sont indépendantes, mais moi, je m'amuse un peu. Donc, en fait, il y a des personnages qui, d'une pièce à l'autre, pourraient être le même personnage. Mais je fais exprès de ne pas le dire clairement. Et dans l'idée qu'un jour, justement, je mettrai en scène le... Voilà, c'est un espèce de but comme ça, le triptyque, d'un coup. Et que du coup, ça prendra encore plus de sens d'avoir les trois parties ensemble.
La deuxième partie s'appelle le cercle. Du coup, ça se passe dans une entreprise d'État. Donc j'imagine que dans ce monde-là, il y a plusieurs cercles, enfin plein de cercles qui sont des centres d'entraînement. Et là, ça se concentre sur, pareil, la disparition d'un personnage. Mais il y a trois personnages féminins. C'est l'histoire de leur relation, comment elles s'entraident dans ce milieu hostile, comment elles font pour survivre, les relations qu'elles tissent entre elles, avec aussi leur relation avec le gérant du cercle.
Non mais tu te fous de ma gueule. Tu m'as vraiment prise pour une conne, hein. Allez, la petite Ali, là, avec sa tête toute mignonne. Et si je lui donnais une petite robette pour la calmer, ça lui fera du bien un peu de froufrou et elle arrêtera de piquer des crises à tout bout de champ parce qu'elle a du sang sous les ongles. Elle te fait peur, la petite Ali, hein. T'as peur qu'à force de l'entendre gueuler, les autres commencent à trouver ça pas normal? T'as peur qu'elle commence à gueuler, elle aussi, et que si on se met toutes à gueuler, peut-être qu'on finira par avoir la bonne idée de venir te choper pour te faire la peau, et peut-être même choper tes clients et leur couper les organes génitaux, comme ça ils pourront pas pondre de marmots aussi crado que leurs parents crado qui viennent reluquer des filles pendant qu'elles se foutent du sang sous les ongles en griffant les joues de leur putain de sœur. Tu t'es dit, la petite Ali, là, je vais la voir. Bah non, mon gars. Oui, t'as bien failli la voir, la petite Ali, mais ces filles-là, c'est mes sœurs. Emma, Billy, c'est même pas la peine que je t'en parle, mais même Margot, même Anna, même Rita qui chiale autant que moi quand je suis arrivée, alors que pourtant ça fait 5 ans qu'elle est là. Tu vas t'habituer, on m'a dit. Non, je m'habitue pas. Et crois-le ou pas, je risque pas de m'habituer de sitôt. C'est pas en me foutant des robes à plumes que je vais m'adoucir. À la limite, si tu veux que je t'en foute des plumes dans ton cul à toi, pourquoi pas? Je peux peut-être faire un effort et je peux peut-être te laisser me caresser entre les oreilles. Mais je te jure que dégage, putain, dégage ta main. Si tu approches ta main, je la bouffe. Oui, je préfère. Bon. Les clients, ils en ont marre de la violence. Tu veux que je te raconte comment les clients, ils en ont marre de la violence? Quand la nana est arrivée, je me suis mise à rire, parce que son type à elle aussi devait être aussi peu net que toi. Il lui avait foutu un déguisement de gladiateur. Je te jure, c'était pathétique. Alors je me suis marrée. Je me suis dit, ma grande, toi et moi, on est dans le même sac, sauf qu'au moins, moi, je fais bander. Et j'ai à peine eu le temps de finaliser cette pensée qu'elle était accrochée à ma gorge et qu'elle serrait mes cordes vocales. J'ai suffoqué, bordel. J'ai vu la vidéo. C'est la première fois que je regarde une vidéo. Je voulais voir, je voulais entendre ce son que je n'avais entendu que de l'intérieur, ce son d'agonie qui s'est échappé de moi pendant une minute entière sans s'arrêter, sans que je puisse rien faire pour l'arrêter. Je crois que ça a été trop pour eux. Il y avait 3 clients derrière les vitres du box collectif. Au moment où je me suis dit, ça y est, c'est foutu. Ciao, bye bye Ali. J'espère que Billy et Emma ne seront pas trop tristes. C'est à ça que j'ai pensé. Aucun regret pour moi-même, seulement pour Billy et Emma qui allaient devoir vivre avec mon putain de cadavre. Un des types est sorti du box. Il s'est jeté sur elle. Elle était super forte, mais elle était toute petite et le gars faisait presque 2 fois sa taille. Le temps que l'oxygène remonte à mon cerveau, je me suis dit, c'est un ogre, il va la bouffer. Il va la broyer, il va manger cette petite poupée désarticulée dans ses grandes pattes d'ogre. Personne n'est venu m'aider. J'ai entendu les 2 autres clients retenir leur souffle. Tu l'avais pas vu venir, celle-là, hein, M? L'ogre a frappé la petite fille au visage. Puis les côtes. J'ai entendu les os craquer sous la pression. Puis il l'a rebalancé sur la piste. Allez, retourne-y maintenant. C'est une adversaire à ta taille. La fille gémissait et... Elle l'a regardé, elle comprenait rien à ce qui se passait, je crois, et elle a rampé vers lui pour essayer de sortir, mais il lui a donné un coup de pied, alors. Je sais pas ce qui m'a pris, Billy. Je comprends pas. Je me suis entendue hurler, j'ai couru vers elle et je l'ai frappée et... S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît, je t'en supplie. Puis c'était fini. Elle ne bougeait plus. Elle ne gémissait plus. Je me suis retournée vers le type, les 2 autres étaient sortis, ils ne pouvaient pas se contenter de regarder ça, de regarder ce carnage depuis le derrière de la vitre. Ils voulaient voir la chair encore chaude, presque encore en vie. Ne le dis pas à Emma. Je t'en supplie, ne le dis pas à Emma, s'il te plaît. Il faut que tu fasses en sorte que... Va parler à Emma. Dis-lui que... C'est fini, la petite Ali qui a peur d'avoir du sang sur les doigts. We'll be right back.
parlé tout à l'heure devant les élèves d'un combat un peu féministe, en tout cas, de questions de société sur le rapport homme-femme.
Alors voilà, bon, moi cette trilogie a commencé juste après que j'ai eu des lectures et des prises de conscience féministes, donc qui m'ont beaucoup marqué moi dans mon parcours. Aussi au niveau de la place des femmes dans la culture et dans le théâtre, je me suis rendu compte que ça allait être deux fois plus difficile pour moi en tant que femme de me faire ma place, ce que j'ai trouvé complètement injuste. Et du coup, de fait, voilà, c'est des questions qui me taraudaient. Et puis voilà, je me suis mise à écrire là-dessus assez... Enfin voilà, j'avais engrangé plein de matériaux comme ça et j'avais besoin de les sortir et d'en faire une fiction pour pouvoir réfléchir moi aussi, apporter ma pierre à l'édifice. Voilà, après, l'idée de cette pièce, c'est vraiment d'ouvrir des réflexions plutôt que d'apporter des réponses. En fait, il n'y a pas de victimes, il n'y a pas de bourreaux. Bien sûr, au premier abord, on va se dire les femmes combattantes sont plus victimes parce que c'est elles qui mettent leur corps en jeu, et elles sont instrumentalisées, etc. Mais j'ai aussi à cœur de faire des personnages masculins qui soient complexes et qui soient eux aussi pris dans ce système qui, en fait, détruit tout le monde, quoi. Si je devais dire un peu ce que moi j'y mets derrière, c'est l'idée de qu'est-ce que c'est la violence, la violence faite aux femmes, comment on réagit à cette violence, comment on s'empare de cette violence, comment on reproduit cette violence, enfin voilà, de vraiment se questionner sur qu'est-ce qu'on peut changer aussi. Enfin, moi je donne pas les réponses, mais en tout cas de pousser les gens un peu à se dire ah oui, c'est y a un truc qui va pas, quoi. Enfin,
tu sais, la semaine dernière, tu m'as demandé pourquoi je mettais autant de temps à sortir de ma capsule tous les matins. C'est que je pleurais. Je voulais pas pleurer devant vous, alors j'ai pris le temps qu'il fallait pour me calmer. Je pleurais pas parce que j'étais triste, Emma. Je pleurais parce que tous les matins, dans le miroir qui s'éclaire au-dessus de mon lit, en même temps que la sonnerie du réveil, je voyais mon corps de femme battue. Je voyais les sillons des bleus qui marquent ma peau, comme un pelage. Cette semaine, je ne pleure plus parce que... Well, je me suis habituée à la douleur, déjà. Et puis, je me suis habituée à mon nouveau pelage. Je ne me dis plus femme battue, femme battue, femme battue, parce que femme battue, ça ne me plaisait pas. Je me dis combattante, guerrière, soldate. Je me dis pelage de prédatrice, armure, carapace. Je cogne avec ma douleur. Et ça me fait du bien de me dire ça.
Comment ça se passe après une adaptation théâtrale? Est-ce que toi, tu sais déjà comment tu veux que ça soit joué? Ou est-ce que, par exemple, je ne sais pas, moi, une compagnie de danse ou de cirque te dit « moi, je veux travailler sur cette pièce-là » Ou est-ce que, voilà, est-ce que c'est totalement ouvert, du coup?
Bah, ça me ferait super plaisir. Parce que moi, en plus, dans mon master, j'ai eu l'occasion de faire des choses assez différentes. Enfin, on a fait beaucoup de jeux, de mise en scène, d'écriture, mais aussi de danse, j'ai été sensibilisée au cirque. Enfin voilà, je trouve ça très intéressant quand d'autres médias, enfin voilà, quand les médias entrent en relation, donc le texte avec pourquoi pas le cirque. Enfin, moi ça je trouverais ça hyper intéressant. Je pense que ça m'angoisserait un petit peu aussi de qu'est-ce qu'ils vont faire de mon texte. Toujours, hein, forcément, c'est notre bébé, donc. Mais non, moi j'essaye vraiment de pas avoir de mise en scène préconçue dans ma tête, de vraiment séparer les deux. Ce qui est un exercice d'équilibriste, hein, on va pas se mentir, parce que quand j'ai commencé à mettre en scène le spectacle, du coup, j'étais complètement perdue, je savais pas quoi en faire. Donc voilà, ça me prend plus de temps que quand j'ai pu, par exemple, mettre en scène des textes qui n'étaient pas de moi. Donc voilà, c'est deux positions pour moi qui sont très différentes. Et voilà, tenir les deux, c'est un exercice un peu périlleux, mais c'est intéressant aussi. Mais voilà, moi, j'aime bien dire que, pour moi, l'écriture est l'endroit d'une liberté totale, là où le plateau, la mise en scène, c'est physique, c'est concret. Il y a déjà des conditions matérielles, des conditions financières. Enfin, voilà, on est limité par des contraintes réelles. Et du coup, j'essaye, quand j'écris, de me débarrasser complètement de toute contrainte pour pouvoir vraiment investir au maximum cet espace de liberté.
Et la troisième partie s'appelle La Fugitive, et elle n'est pas encore écrite, elle est dans ma tête, en réflexion, mais j'ai écrit des extraits, mais le texte n'est pas encore là.
Épisode 3, La Fugitive. Chapitre 1, Le poison qui coule dans mes veines. La Fugitive. J'ai vécu pendant quelques mois dans une prison d'or et de sang. Du sang fumé. Un jour, une rose vénéneuse a poussé sur mon épaule. Elle a planté ses racines dans ma chair. Je ne l'ai pas remarqué tout de suite. Ce n'était d'abord qu'une douleur lancinante, presque inaudible. Je me grattais férocement. Boutons de moustique, piqûres d'insectes, eczéma chronique. J'ai enfoncé mes doigts dans ma chair à vif et j'y ai découvert un nid d'épines. J'ai gratté frénétiquement. J'ai arraché les épines une à une, puis je les ai comptées. Il y en avait 7. Je me suis confectionné un pansement de fortune pour dissimuler la blessure. Quand j'ai enlevé le bandage, une rose fanée a jailli de terre. Je l'ai arrachée. Aucun coup reçu ne m'avait jamais fait aussi mal. Le lendemain, une autre rose avait poussé. Plus drue, couverte d'épines. Poison intraveineuse. Je la cachais sous une compresse. Tous les matins, je la caressais du bout des doigts. Je comptais les épines. Je plantais ma peau dans chacune d'elles. Mes doigts ont commencé à s'endurcir. Leurs extrémités se sont transformées en une couche de croûte uniforme. Je portais des pansements sur mes doigts. À force, je n'avais plus mal. Le sang coulait toujours, les épines crevaient ma peau, mais je n'avais plus mal. C'est une méthode barbare, c'est vrai. Une méthode de fakir. À force de douleur, on ne ressent plus rien. C'est une méthode qui marche sur le corps. Mais le poison émotionnel est plus puissant, plus sournois. Sa douleur n'a pas de limite. Elle se reproduit à perpétuité. Un cœur brisé ne cesse d'exploser. Je n'avais plus mal, mais le poison, lui, continuait à se répandre. Quand le poison est interne, il ne vous reste plus que deux options. Le suicide ou la résilience. Comme je n'avais pas l'âme tragique, j'ai décidé de sauver ma peau. Ce ne sont pourtant pas les modèles d'héroïnes romantiques sacrifiées qui manquent. Mais je crois que dans le fond, j'aime bien me battre.
Lecture publique de Manon Andréau au lycée Marcel Gimond à Aubenas. Vous pouvez retrouver le travail de cette autrice et metteuse en scène dans la compagnie Les Faiseurs de Rien. Si vous souhaitez découvrir la compagnie, il faudra faire un petit tour du côté de Montpellier. Et si vous souhaitez lire Combattante, le premier épisode va être publié très prochainement. Il devrait sortir au premier trimestre 2022. Ce premier volet a pour titre Bee and Sons.